bienvenue dans la deuxième partie du podcast sur A Touch of Sin et Jason Kuh. Nous allons un peu reparler de la filmographie de Jason Kuh qui est apparue en 1997 avec Xiao Yu et dont A Touch of Sin est le 10e long métrage. C'est vrai que c'est une filmographie qui est partagée, il a fait beaucoup de courts métrages, qui est partagée entre long métrage, court métrage, documentaire, fiction. Et il va dans énormément de directions. Sidi, qu'est-ce qui a été le point de rupture pour toi dans A Touch of Sin? Ou disons, s'il me semble que tu aimes son cinéma, qu'est-ce qui a fait que... qu'est-ce que tu n'as pas retrouvé dans A Touch of Sin qui t'avait plu dans ses autres films? Ou pourquoi tu aimes son cinéma et tu n'aimes pas ce dernier film?
Bah, moi, ce qui m'intéresse à la base dans le cinéma de Jason Kuh, c'est ce côté un peu fiction diluée dans la prise documentaire. C'est-à-dire, et ce, dès son premier film, Xiao Wu, qui m'avait saisi par ça, par l'accompagnement d'un personnage vraiment lambda. Voilà, ce fameux Xiao Wu, dans son quotidien de jeune pickpocket. Et la manière dont il était confronté à la brutalité de la société dans laquelle il vivait. J'aimais ce côté un peu circulation d'un personnage presque un peu anonyme qui s'effaçait presque un petit peu dans la foule. Et j'ai retrouvé un peu ça dans le reste de son cinéma, dans Le Beau Plateforme par exemple, film très ambitieux.
Mais c'est marrant parce que ce que ouais. Tu racontes, j'ai l'impression que ça vaut aussi pour A Touch of Sin en fait.
J'allais dire la même
c'est
chose.
C'est exactement les termes que tu as employés. Prendre un personnage lambda confronté à la violence du monde, ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans A Touch of Sin finalement, et qui traverse effectivement toute sa filmographie. Ouais.
Bah, pour moi, A Touch of Sin se rattache effectivement au reste de sa filmo par ce souci de l'individu, ce souci de la singularité, de l'individu, du destin d'un personnage confronté effectivement à la violence d'un système. Ces personnages ont toujours d'une manière ou d'une autre pris des coups, que ce soit au sens propre comme, voilà, comme symbolique. Cette fois-ci, il a décidé de leur donner la possibilité de réagir. Et en ce sens, pourquoi pas? Il y a quelque chose sans doute de cathartique, aussi bien pour lui que pour ses personnages. Maintenant, voilà, ce qui m'avait intéressé jusqu'ici dans son cinéma, c'était quand même le côté... il y avait une juste distance. Il y avait une juste distance, il y avait une manière de laisser ces personnages, on va dire, vaquer. Voilà, il y avait une forme de vacance dans son cinéma, de disponibilité du plan à leurs égarements qui faisait que moi, je me laissais très facilement prendre, aussi bien dans des films très longs, donc comme Plateforme, qui est peut-être même mon préféré, où pendant une dizaine d'années, je crois, voire plus, on accompagne une troupe de son évolution, avec certains personnages qui disparaissent en cours de route. Voilà, on est en train de voir l'histoire de la Chine en train de se créer en direct, tout en essayant de ne pas perdre de vue une poignée de personnages. Et voilà, pour moi, Jason Kuh à son meilleur, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est aussi passionnant dans son travail de documentariste, aussi bien dans un film comme Useless où il montrait un peu la fabrication en cours, c'est ça, de vêtements, j'ai pas souvenir précis, mais voilà, ouais. Et il s'est toujours intéressé à toutes les couches justement de d'une industrie. 24 City était intéressant aussi par il y avait déjà un côté un petit peu, je dirais pas arty, mais un côté coup de force artistique. Dans le sens où l'entremêlement du documentaire et de la fiction était assez net quand même, était assez clair. C'est-à-dire qu'il fondait les deux régimes de manière assez visible, mais ça faisait aussi en même temps le charme du dispositif. Voir des personnages en train de parler face caméra, des acteurs pour la plupart, je crois.
Ouais, j'ai toujours un doute. J'ai pensé à un moment qu'il s'agissait à moitié d'acteurs et à moitié de véritables intervenants. Oui. Il me semble finalement qu'il ne s'agit que d'acteurs.
Que d'acteurs qui récitent le vécu de
plusieurs personnages.
Plusieurs personnages.
Tout est complètement écrit et la partie documentaire est un travail de recherche finalement dans 24 City.
Ouais. Ouais. Et il y avait, voilà, je l'aime quand il plane. Je l'aime quand il plane. Aussi bien quand il plane dans le côté purement, on va dire, basinien du cinéma. Le côté enregistrement, mais aussi dans le côté un peu superficiel. Superficiel, disons, dans sa manière de filmer les images d'aujourd'hui. De filmer des images de portable, des images de néon, un petit peu. Voilà, quoi. Je trouve que c'est un cinéaste qui a saisi un peu mieux que personne ces dernières années ce qu'était le monde en train de se faire, ce qu'était le capitalisme, ce qu'était la mondialisation.
Mais je comprends cette effectivement depuis ses premiers films où il y a un espace de liberté beaucoup plus grand qui est fait au plan, beaucoup de vacances aussi dans plateforme. Je sais qu'il a respiré des plans pendant 4-5 minutes. Il filme en plan fixe et des plans séquences très lents, très longs, ce qui fait plus dans Touch of Sin. C'est vrai qu'il y a un plan extrêmement construit. Il peut pas dans la construction du film, il peut pas se permettre la même forme de respiration qu'il y avait à ses débuts. C'est-à-dire construire un plan et puis le laisser respirer pendant 5 minutes. Ça, on ne l'a plus du tout dans Touch of Sin. Cependant, j'ai l'impression qu'on trouve dans cette construction, et à mon avis qui vient plus du film de genre, des moments de respiration, parce qu'il va filmer dans la rue, enfin il filme en décor réel. Je suis pas sûr que quand on voit l'intérieur d'une usine, ce soit des figurants. Alors ça, faudrait vérifier, mais il me semble qu'il y a encore cette attache au réel dans un écran fictionnel qui est beaucoup plus resserré, effectivement, dans notre Touch of Cinema. Mais j'ai aussi l'impression que c'est la direction que prend son cinéma quasiment depuis Still Life, où il avait fait Dong en même temps. Donc, il avait fait un documentaire d'un côté sur un artiste, et il était allé filmer La Vallée des Trois Gorges de l'autre. Dans Still Life, il y a beaucoup de moments d'espace où il va filmer des gens sur un bateau, il va filmer des simples anonymes. Mais en même temps, il commence à introduire des éléments de fiction qui sont extrêmement maîtrisés. Enfin, il va amener deux personnages de fiction sur des lieux d'un documentaire. Il y a une fin qui part complètement du réalisme avec un espèce de vaisseau qui décolle, il me semble, dans le dernier plan. Et j'ai l'impression que son cinéma est dans 24 City, où il est dans la fusion totale du documentaire et de la fiction, va de plus en plus vers en tout cas, cette manipulation du très cadré du réel. Moi, ce que tu dis sur A Touch of Sin, je l'ai ressenti sur son précédent I Wish I Knew, Histoire de
Que j'ai
Shanghai.
pas vu. Ouais.
Alors, I Wish I Knew, Histoire de Shanghai m'avait un petit peu déçu parce qu'il y avait déjà ce caractère un peu répétitif par rapport à 24 City, où il reprenait cette idée d'avoir des témoignages qui racontaient cette fois-ci l'histoire de Shanghai des années 30 à nos jours. Mais en tout cas, il refaisait un film sur la parole tel qu'il l'avait déjà fait auparavant. Il y avait aussi ce que tu reproches d'ailleurs, Touch of Sin. Ce côté très esthétique, très exercice de style qui m'avait semblé être plus présent dans I Wish I Knew. Donc c'est peut-être une direction que prend son cinéma. Après, là où A Touch of Sin m'a rassuré, c'est que I Wish I Knew, Histoire de Shanghai est un film très doux, finalement, où il n'y a pas du tout la verve et l'aspect critique qu'il peut y avoir dans tous ces autres films, où on a l'impression qu'il est rentré un peu dans le rang. Moi, j'avais un peu peur de ça en voyant son avant-dernier film, du fait que depuis The Ward, on sait qu'il fait des films qui passent la commission de censure chinoise, donc ils sont distribués en Chine, donc il présente aussi ses scénarios. Bon, après, le bureau de commission semble être complètement kafkaïen, donc on ne sait pas pourquoi certains films passent, pourquoi d'autres noms, mais en tout cas, voilà, il semblait plus entrer dans le système, pas avec The Ward et les suivants, mais en tout cas avec I Wish I Knew, Histoire de Shanghai, dans lequel il y avait de l'argent de l'État aussi d'ailleurs, donc ça faisait un peu plus film de commande. Et là justement, ce qui m'a plu dans A Touch of Sin, c'est qu'il retrouvait cette force critique qui me semblait un peu avoir perdu, tout en utilisant la force esthétique et cette maîtrise totale formelle qu'il a pu avoir, en tout cas qu'il développe depuis Still Life. Donc ça m'a beaucoup moins gêné là, le fait que tout soit parfaitement cadré, parfaitement maîtrisé. C'est même un truc, enfin, bon, quelque chose qui participe pour moi à l'architecture grandiose du film, en fait, cet aspect très millimétré, mais qui, dans cette description du réel, laisse quand même respirer, non, pas respirer, mais laisse une petite place au réel. En tout cas, une grande place au réel, parce qu'on le voit quand il filme des figurants, on le voit dans l'arrière-fond. Et donc ça me semble encore présent dans son cinéma.
Ouais, donc tu penses que finalement le réalisateur de ce dernier Touch of Sin reste quand même celui qu'on a pu aimer dans un plateforme ou dans son tout premier film. Enfin, tu trouves que. Enfin, tu trouves
C'est une évolution logique en fait, de son cinéma.
Ouais, il y a une évolution assez incontestable
Il y
et
a
c'est
une
vrai que.
vraie
Ouais.
continuité. Enfin, c'est un bloc, j'ai l'impression,
Ouais.
sa filmographie.
Oui, enfin, tu veux dire quelque chose, Jérémy?
Bah non, mais
C'est.
juste que ouais, moi je trouve ça logique. Et comme tu le disais, Victor, je trouve qu'il retrouve une certaine force et un côté un peu militant qu'on pouvait penser que ça allait un petit peu s'éteindre avec le comité de censure, etc. Donc je trouve que l'évolution est belle et qu'on a qu'une envie, c'est voir où il va aller, où son cinéma va aller. Et je trouve que ça va être passionnant quoi, dans les prochaines années.
Et vous pensez que ce film-là est le point de départ donc d'une nouvelle ère
Moi, ça me semble. En tout cas, je crois qu'il a fini avec à Hu Shan Yu et Sœur de Shanghai. Il est possible qu'il y revienne, hein, j'en sais rien, je suis pas devin non plus. Mais voilà, en tout cas, qu'il a clos un chapitre consacré à la parole. Et que là, son but, c'est de filmer la Chine actuelle, à mon sens, à travers le cinéma de genre. À mon avis, vu que ses prochains projets se passent dans le Shanghai de 1900, des années 20, il a des adaptations de Wuxia en tête. Je pense qu'il va continuer à travailler le film de genre pour décrire la Chine d'aujourd'hui. Après, c'est amusant parce qu'il s'est énormément opposé à Zhang Yimou, notamment à la période de Hiro, enfin voilà, qui déteste. C'était celui d'après La Cité Interdite, voilà. Et c'est vrai qu'ils étaient, il s'était, il avait fait un petit duel avec Zhang Yimou à l'époque de La Cité Interdite. Hein. Il avait voulu sortir Still Life le même jour que le film de Zhang Yimou, qui était l'énorme blockbuster chinois dont toutes les télés
Et voilà l'exemple d'un film,
parlaient.
voilà l'exemple d'un film purement esthétique et purement exercice de style où vraiment où il y a le fond est quasiment
Il y a pas de fond,
inexistant.
enfin, on est dans un
Et
discours
c'est voilà, c'est de la carte postale, c'est de la
majoritaire.
carte postale et c'est du consensuel et c'est du film historique entre guillemets où tu apprends l'histoire de la Chine. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec le cinéma de genre militant voilà, avec Touch of Sin. Donc c'est vraiment l'exemple parfait quoi. De Zhang Yimou, c'est l'exemple parfait.
Et je pense qu'il est toujours, même s'il fait un cinéma de genre, dans cette opposition avec ce que lui appelle le cinéma de pur divertissement en fait. Et c'est comme ça que Zhang Yimou se justifie à l'époque en disant, ça il l'explique dans son livre, qu'il fait du cinéma de divertissement, et donc il n'a pas de justification artistique à donner. Et au contraire, je pense qu'en utilisant le genre de cette manière, il continue à faire autre chose que du divertissement, quoi. J'ai pas le livre sous les yeux, je voulais citer une citation justement quand il parlait de Zhang Yimou. En tout cas, il disait que la manière dont il se défendait, c'était à l'époque de La Cité Interdite, Zhang Yimou expliquait que pour lutter contre Hollywood, il était obligé de faire ce genre de film de divertissement pour que les gens aillent au cinéma. Et ce que Jianzhang lui répondait, c'était qu'il trouvait ça un peu trop énorme. Et la phrase qu'il avait, c'était. Il lui a dit, tu penses vraiment qu'en arrêtant de faire des films, le cinéma des Chinois va disparaître? C'est assez marrant,
C'est
ouais,
un
quand
peu
même.
l'obsession chinoise actuelle de vouloir à tout prix rivaliser avec Hollywood. Et on voit toutes les énormes productions chinoises, voilà, les Détectives Di ou les choses comme ça, les grands films à costume, où vraiment voilà, ils tentent de rivaliser, mais où les films sont des produits, quoi. Mais c'est très vide.
Et c'est dur de faire autre chose. Enfin, pour le coup, il y a une autre proposition dans le cinéma de genre, mais on voit que
Bah, c'est
avec
un peu barré, ouais, la route est
Siyar
un peu.
ou Wong Kar-wai, n'arrive pas vraiment
Bah,
à faire ça.
non, ils s'en
Enfin,
sortent pas, non. Bah, ils sont dans la logique du Zhang Yimou, quoi. C'est du cinéma de divertissement pour contenter la masse.
Donc, Jason Kay se réapproprierait certains codes de ce cinéma de divertissement, mais d'un point de vue strictement critique, c'est ça?
Alors, je pense qu'il le considère pas uniquement comme un cinéma de divertissement, justement. En tout cas, il va pas justifier comme ça. La grosse référence du film, c'est King Hu, bon, qui avait des ambitions, c'est Touch of Sin, donc Touch of Zen,
Touch
qui avait des ambitions esthétiques et philosophiques, on va dire, dans ce film, qui étaient très marquées. Je pense qu'il est plutôt dans cette mouvance-là, enfin, de faire. Enfin, peu importe que ce soit du cinéma de divertissement, mais en tout cas, ne pas prendre le terme comme une excuse pour une paresse esthétique et ne rien dire d'autre, quoi.
C'est un peu voilà, c'est un peu son geste voilà, c'est son geste de rébellion face à toute une classe de cinéastes qui sont voilà, qui se reposent un peu voilà, qui ont mis leurs pantoufles et qui se mettent à l'aise avec le parti quoi en quelque sorte voilà il veut essayer de montrer qu'il est capable de faire des films des films de genre, des films voilà, il va faire son Wuxia, il a fait avec Touch of Sin un vrai film de genre. Où il y a des choses à dire, où ce n'est pas, voilà, on ne justifie pas la paresse en disant bah ouais, mais le cinéma c'est fait pour s'amuser, moi je veux faire du cinéma de divertissement. Non, lui il y va, il fait son film de genre, et pour autant il continue de réfléchir sur la Chine, il continue de questionner, il continue voilà, de se rebeller en quelque sorte, quoi. Et ces gestes-là, c'est assez beau, quoi.
Mais y a un côté. Effectivement, il y a un côté dans cette extrême lucidité, il y a un côté c'est comme ça. Je vais vous exposer quelque chose, je vais vous exposer quelque chose que d'autres cinéastes de mon pays ne montreront sans doute pas, et que d'autres cinéastes parmi mes contemporains ne montreront sans doute pas. En tout cas, pas comme ça. La frontalité, par exemple, du suicide du jeune homme dans ce Touch of Sin est effectivement impressionnante, mais il y a quelque chose dans ce cadrage qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est justement que. C'est trop cadré. Il y a quelque chose de l'ordre du je vais vous exposer de la manière la plus directe, la plus claire, cette fatalité, cette espèce de d'état des lieux, cette espèce d'état du monde. Et finalement, j'ai l'impression que je crois que ce qui me dérange moi un petit peu dans le cinéma, c'est quand l'artiste a envie de se poser comme grand observateur. Voilà. Moi, j'ai besoin qu'on me laisse la possibilité aussi de trouver ma propre place. On parlait d'interrogation à un moment au début du débat, et ce film ne m'a pas aidé à m'interroger véritablement. Il me montre les choses telles qu'elles se font effectivement, telles qu'elles se réalisent, et il n'y a jamais de véritable doute quant à l'effectivité de ces choses, que ça
Mais ça
soit.
n'empêche pas de t'interroger après sur le pourquoi, sur le comment, sur. Je veux dire, effectivement, il pose quelque chose, mais je trouve que enfin, pour moi, ça ouvre une réflexion. C'est, je veux dire, effectivement, on ne se demande pas pourquoi il fait telle ou telle chose, mais ça n'empêche pas de réfléchir à l'avenir de la Chine, à ce qui s'y passe actuellement et aux soucis. De l'époque actuelle. Pour moi, ce film provoque beaucoup de questionnements. Il suffit de voir, bah, avec Victor et Jérémy, on est en train de faire des papiers brassant chacun une thématique du film. Ça prouve bien que ça provoque quand même certaines réflexions bien précises. Et je pense qu'on en est loin d'en avoir fait le tour.
Je pense que ça a toujours été un cinéaste très théorique. Finalement. Enfin, dès ses premiers films, quand il faisait durer le plan dans Plateforme ou dans son premier film, Zhou Yu, Artisan Pickpocket, c'était aussi pour montrer quelque chose que ne montraient pas les cinéastes
Bien
chinois
sûr.
contemporains. Enfin, pour Jiazhen Ke, il faisait pas durer un plan pour faire respirer l'image, pour faire respirer le cadrage. Il montrait un plan pour montrer la réalité à un certain moment tel qu'il la ressentait. Et tel que personne d'autre ne l'a montré. Donc la durée du plan était aussi théorique qu'à mon sens le dernier plan de A Touch of Sin, qui a double tranchant, parce que effectivement il y a ce côté grand observateur, et voilà, il y a cette fatalité qui est là, mais cette fatalité est aussi celle du personnage qui à ce moment-là ne voit pas d'autre échappatoire que de celle de sauter. Donc il va construire son plan pour à la fois observer cela et pour montrer l'état d'esprit du personnage. Enfin,
Mais excuse-moi. Le dernier plan du film,
C'est vrai que c'est pas fini.
c'est quand même cette chorale, quoi.
Qui
On
résonne
voit le
avec le
spectacle, on
destin
voit le
de.
spectacle
Oui.
et Jiazhen Ke tourne sa caméra et met le peuple chinois face à ses responsabilités en quelque sorte, quoi. C'est ça le plan final, quoi. Il nous montre ce peuple et qui dit bon bah et puis voilà et alors et après quoi. Il interroge grandement quoi. Il met le peuple face à ses responsabilités quoi. Bon, ça fait un peu donneur de leçons comme ça, mais il y a mais il y en a pas beaucoup qui montrent cette réalité en Chine et qui questionnent directement le peuple en leur disant bah voilà qu'est-ce vous en faites quoi de tout ce qui s'est passé là? Pourquoi que vous allez faire quoi?
Non, c'est vrai que le film, donc là on spoil complètement, hein, si vous ne l'avez pas vu, c'est le dernier plan. Et il revient sur Zhao Tao qui a trouvé une nouvelle identité et qui regarde une pièce de théâtre. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce Jiazhenke observateur du peuple anonyme chinois qui filme. Il y a des gros plans, il me semble, sur cette foule, sur des gens. Donc on retrouve cet observateur, mais on pointillé. Pas l'observateur grandiloquent, donneur de leçons et théoricien sur cette fin. Et avec, quand même, quand tu disais que c'était pessimiste, Sidi, en revenant sur cette fin, il y a cette possibilité d'avoir une deuxième chance. Enfin, le personnage de Zhao Tao opère une mue, enfin, elle est associée à l'image du serpent dans le film, elle opère une mue et elle a le droit à une deuxième vie. Le film se termine quand même là-dessus, enfin, sur l'interrogation dont tu parles, Jérémy. Bon bah ok, tout ça qui s'est passé, maintenant qu'est-ce qu'on va faire quoi, enfin, et son visage est alors elle pleure il me semble, ouais, mais il y a quand même cette idée qu'une deuxième vie et une interrogation sur une seconde chance est possible.
On a l'impression qu'il a quand même envie de, oui, de laisser quand même une ouverture, après tout ce qu'il a montré, d'au moins sauver un personnage, enfin oui, la résonance entre l'histoire chantée et ce que manifestement ressent le personnage de Zhao Tao à l'écoute de ce chant, a quelque chose effectivement d'assez poétique, on peut dire ça. Enfin, il y a une forme, voilà quoi. Donc voilà, oui, en fait voilà, ce film, je le déteste pas, hein. je vais être vraiment très clair. Je l'ai vu. Voilà, je le déteste pas. Je l'ai vu une fois, j'irai sans doute le revoir. Sincèrement, je doute de l'adorer, mais voilà, c'est... Vous me donnez envie, en tout cas, de le revoir peut-être avec un petit peu plus de... Comment on va dire? Peut-être que j'en attendais quelque chose d'un petit peu plus subtil avant d'aller le voir, au vu de mon passif avec ce cinéma, qui fait que tout ce qui m'a été montré, tout ce qui m'a été donné d'un coup de manière assez brute... a provoqué chez moi une forme de recul. J'ai eu besoin de m'extérioriser par rapport à ça. Et je ne m'attendais sans doute pas à avoir cette posture-là par rapport à ce cinéma-là. Je vais vous prendre un exemple très clair. Après qu'il ait massacré deux, trois personnages dans le premier sketch, et qu'il va trouver le Big Boss, c'est ça, et que le Big Boss essaye de le convaincre de ne pas le tuer, il y a un mouvement de caméra entre celui qui tient l'arme et celui qui est en train de le supplier, etc. Au début de notre débat, je parlais de positionnement. À ce moment-là, voilà, comme spectateur, je me dis, ce mouvement de caméra, qu'est-ce que c'est exactement? Où est-ce que moi, je me place? C'est-à-dire que, est-ce que je dois espérer que le personnage, finalement, ait un léger recul, d'une certaine manière? Ou est-ce que je... Enfin, voilà, j'ai un problème par rapport à ça. Même si son patron est quelque part assez monstrueux, au vu de ce qu'il lui a fait au début... On parlait au début de la jouissance de voir le personnage aller jusqu'au bout de son processus un peu expiatoire. Moi, je en tant que spectateur et peut-être en tant qu'homme, ça va être un peu bateau de dire ça, mais j'ai envie de dire non, je ne veux pas me situer par rapport à ce genre d'image. Je ne sais pas où me placer en tant que spectateur. Ça me dérange profondément. Alors que dans le sketch de Zhao Tao, il y a quelque chose peut-être de plus fort, c'est-à-dire que... Et encore. on est le 13, donc le film est sorti il y a 2 jours. Je crois que voilà, la plupart de nos auditeurs l'ont vu, n'est-ce pas?
Oui.
Que fait la future victime de Zhao Tao? Elle insiste. Une première fois, une deuxième fois, etc. Zhao Tao, à la base, n'est pas voué à péter un plomb, contrairement à son prédécesseur. Et puis, à un moment, elle commence à se faire malmener, mais vraiment physiquement. Au début, c'était un harcèlement par les mots. Et puis ça devient physique. Paf, 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 paf. À ce moment-là, on se dit... voilà. Elle est en train vraiment de subir quelque chose d'inacceptable. Elle lui rend cette violence. Elle le lui rend. Mais j'ai l'impression qu'il y a une joie de la part de Jason Kay dans cette manière de montrer la plaie en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose. Et je crois qu'il y avait quelques rires dans la salle. Et moi, ce rire, j'ai eu peut-être un rictus en voyant ça, mais ce rire m'a profondément gêné en tant que spectateur. Je suis totalement convaincu par tout ce que vous avez dit, mais en tant que spectateur, c'est le genre de dispositif que je refuse.
Je pense que le rire est gêné en fait, quoi. Le spectateur il est mal à l'aise avec ce qu'il voit et forcément voilà, ça provoque le rire. Mais je pense que c'est vraiment une volonté de quoi. Je pense que la scène a dérangé quoi. Les rires c'est ça, c'est ils étaient
Ah bah à
vraiment.
aucun moment j'ai ressenti du fun ou de l'amusement
Ah non
face
non
à
mais
cette
la scène n'est pas fun, mais
scène-là.
c'est la c'est voilà c'est le mouvement de défense basique du mec qui est au ciné et qui voit un truc qui le gêne profondément et qui n'a comme solution de rire quoi,
Mais
voilà.
pourquoi montrer de cette manière le résultat de l'acte du
Bah en fait ça
personnage?
nous renvoie à la scène du cheval, voilà, ça nous renvoie à la scène du cheval qui se fait cravacher sans arrêt et qui est à bout de force quoi. C'est la condition de la femme, c'est avec leur argent ils leur tapent dessus, c'est pas subtil pour un sou, mais c'est le cas de le dire, mais c'est fort quoi
Je pense que
et c'est dérangeant.
le positionnement, en plus à la fois de Jason Kay, quand je disais qu'il avait un regard, je vais me contredire, mais bon, c'est pas grave, comme ça j'ai une autre lecture du film. Je disais qu'il avait un regard neutre, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'on n'a pas du tout le même positionnement par rapport au personnage de Zhao Tao, ne serait-ce que parce qu'elle a le droit à une forme de rédemption. Il y a dans la pièce qu'elle regarde une question de. Faudrait que je vérifie quelle pièce c'est, donc je vais pas le dire là, mais je crois que j'en parle dans mon article là. Donc c'est une forme de rédemption, elle est jugée innocente et elle peut continuer à vivre. Donc le spectateur dans cette scène est forcément du côté de Zhao Tao. On attend à ce que cette femme se révolte, d'autant qu'on a vu les explosions de violence. Dans la première scène dont tu parles, le mouvement de caméra qui va de la future victime au personnage principal a pas du tout la même signification. On se dit pas vas-y tue-le,
C'est purement
enfin,
stylistique, je pense. Hein.
c'est stylistique et c'est peut-être l'hésitation du personnage lui-même. Est-ce que moi je peux aller jusqu'au
Ouais, il y a
bout
de
de
ça.
l'acte que je suis en train
Il y a
de
de ça.
faire? Et finalement le spectateur ressent cette l'interrogation, enfin moi j'ai ressenti l'interrogation du personnage, mais moi je me suis pas dit bah soit vas-y va au bout soit arrête, enfin je me suis pas du tout posé dans cette optique-là. J'attendais de voir ce qui allait se passer, mais en tout cas, j'avais pas un positionnement oui, on va dire, de jugement par rapport au spectateur, hein, demander du sang ou à ne pas vouloir du sang, justement. Le personnage de Zhao Tao, c'est un peu différent, ouais, parce que bah, on est beaucoup plus de son côté à ce moment-là par rapport au fait qu'on voit que c'est un personnage rationnel. Depuis le début, on est peut-être un peu plus attaché, et de par sa situation, on attend à ce moment-là à ce qu'elle se défende, quoi. Donc il y a j'ai pas un soulagement en plus, mais en tout cas oui, là on est plus clairement de son côté. C'est pas un positionnement moral en termes cinématographiques qui me gêne plus que ça, je dirais. Enfin,
C'est quand même une femme qui se fait maltraiter quoi voilà, c'est bateau aussi de dire ça mais voilà, c'est dur, on a envie quand on la voit se prendre des coups, on a envie qu'elle bouge quoi,
Des coups de billet en plus, hein, c'est
des coups
ça?
de
Des coups
billet voilà, à
d'argent,
coups
dit je ne
d'argent,
suis
le
pas
mec
une pute.
voilà, le mec
Ouais.
à coups d'argent qui la tape et on a envie qu'elle fasse quelque chose, qu'il se passe quelque chose au moins quoi, et il insiste là-dessus pour qu'on ait envie de que ça explose quoi en quelque sorte et que la femme sorte de sa condition en quelque sorte.
Après, c'est aussi effectivement, il y a ce côté métaphorique avec voilà, les femmes qui sont exploitées en Chine par des truands qui ont de l'argent. Et finalement, il dit, voilà, s'il y a une révolte, elle peut être légitime à ce moment-là. Bon, donc je contredis complètement ce que j'ai
Oui.
dit au
Mais
début, mais c'est pour ça que
là, il y a un vrai positionnement
cinématographiquement,
quoi sur le segment à Zhao Tao, il y a vraiment un vrai positionnement.
on laisse pas beaucoup parler, Yannick.
Oui, je crois que tu voulais
Non,
dire
mais pour
quelque
l'instant,
chose.
moi j'écoute, hein.
J'ai vraiment envie d'être l'emmerdeur absolu.
Vas-y,
Et
vas-y. On fera pas de débat
voilà.
contradictoire, alors
Ouais,
là, mais
allons-y à
d'accord.
fond.
D'habitude,
Ouais.
c'est mon rôle, donc c'est tout à fait normal.
Je vais l'assumer exceptionnellement. Ouais.
Peut-être qu'on va faire une pause
Bah oui, faisons une
et
pause.
qu'on va faire une troisième partie avec le débat contradictoire.
La
C'est
machine
Sidi
s'emballe.
qui va nous poser des questions pour nous dire, mais c'est
Ouais.
vraiment nul, qu'est-ce que vous avez à répondre à
Non,
ça?
c'est pas nul, mais.